Presto, Yann, Radio Esperanto, Radio Libertaire 89.4, et c'est la fin de Radio Esperanto. Et maintenant, eh bien, on accueille les gens de la Ligue des droits de l'homme avec une émission qui a été enregistrée, qui fait 74 minutes pour être précis. Voilà, dans l'émission des gens et des droits, donc une émission de la Fédération de Paris de la Ligue des droits de l'homme, proposée par, ce sont les sections, eh bien, 6e et 7e de Paris 15 et de l'EHESS. Alors, c'est en collaboration avec l'association France-Palestine. France-Palestine Solidarité de Paris 14e, 6e, de Paris Centre et puis de Paris Sud. Voilà, c'est avec le soutien de l'ACAT, ACAT, d'Amnesty International France, du MRAP et de l'UJPF. Voilà, rencontre débat donc avec Salah Hamouri, enregistré le 18 avril. Donc il y a peu de temps, hein. Voilà, à l'École des hautes études en sciences sociales. On parle donc de Salah Hamouri, avocat franco-palestinien, emprisonné pendant plus de 6 ans, puis expulsé par Israël il n'y a pas très longtemps, le 18 avril 2023. Salah Hamouri se bat sans relâche contre la politique d'apartheid envers le peuple palestinien. Durant l'émission, vous allez entendre des musiques additionnelles, additionnel et traditionnel, on va dire, voilà, musique et chants populaires de la région de Naplouse. L'album est produit par l'association Human Supporters. Doyen, cette émission, je vous laisse, donc on vous laisse, eh bien, à l'écoute pendant, en gros, comme ça, 1h15. À tout à l'heure. Bonne écoute.
وطني كان في أم وطني كان في طفل وطني زرع المحبة وطني صار في ليل صار في حرب صار صار في ناس بعينيها حربي وطني كان بأم وطني كان في طفل وطني زرع المحبة وطني صار في ليل صار في حرب صار في ويل صار في ناس بعينيها حربي كان في كوب كان في طير وطني عاش الضمير وطني صار في نار صار في خوف صار في تار وطني حرقك وخزي
ici que le but c'est d'abord de comprendre ce qui se passe, de comprendre pourquoi Salah Hamouri, qui dès l'âge de 18 ans a été harcelé, emprisonné par l'occupant israélien, pour parler de l'occupation israélienne, et peut-être, tu sais, peut-être que certains à l'extérieur maintenant n'ont pas compris que, y compris bon nombre d'Israéliens, juifs israéliens, combattent aussi l'occupation parce qu'ils comprennent bien que c'est une gangrène, y compris pour leur société, dans laquelle les ministres les plus importants, les plus influents, sont aujourd'hui l'extrême droite, Bezalel Smotrich, qui est ministre des Finances, mais également gouverneur d'une certaine manière de la Cisjordanie, c'est-à-dire des territoires palestiniens occupés, qui vit lui-même dans une colonie, et Itamar Ben-Gvir, qui lui est responsable ministre de la sécurité intérieure israélienne, et on voit ce que ça donne aujourd'hui. Donc ce qu'a vécu Salah Hamouri depuis des années n'est pas complètement étonnant, puisque c'est une volonté d'empêcher toute expression de l'occupation et du droit du peuple palestinien à recouvrir ses droits entiers sur Jérusalem-Est, sur la Cisjordanie et sur Gaza. Et donc Salah Hamouri a été directement visé depuis plus de 20 ans maintenant, mais il en parlera beaucoup plus que moi. Pour montrer que ce n'est pas une question partisane, contrairement à ce que voudraient faire croire certains, et encore moins que c'est une question d'affrontement religieux qui serait de juifs contre musulmans. Il ne s'agit absolument pas de ça, il s'agit d'une question de droits de l'homme, il s'agit d'une question des droits d'un peuple qui veut exister, qui veut vivre, qui veut avoir ses droits, et qui est une lutte contre l'occupation et contre la colonisation. Jean-Claude Samouillet pour Amnesty International. Alors Jean-Claude, voilà, nous expliquer un peu la problématique, pourquoi Amnesty International s'engage sur ce dossier au centre duquel se trouve Salah Hamouri.
La première chose que je voudrais vous dire, c'est que Amnesty International a publié un rapport de 300 pages il y a un petit peu plus d'un an, qualifiant la situation en Israël même et dans les territoires palestiniens occupés de situation d'apartheid. Ce terme d'apartheid, ce nom d'apartheid, n'a pas été pris à la légère. Nous, c'est un travail de 4 ans où nous avons documenté, nous avons interviewé des personnalités juives israéliennes ou palestiniennes, des ONG palestiniennes ou juives. Nous avons analysé des textes de loi, nous avons analysé des règlements, des arrêtés, des ordonnances militaires. Nous avons tenu compte également de toutes les déclarations politiques et tout ce que nous avons collecté, nous les avons soumis à l'appréciation d'experts internationaux pour être sûr que ce que nous avancions était crédible. Et tous ces faits, ces 300 pages de faits, nous les avons mis au regard du droit international. Et en particulier, au regard de trois textes fondamentaux. C'est la Convention internationale de 1965, qui porte sur l'éradication de toute discrimination. Le deuxième texte, c'est la Convention internationale de 1973 contre le crime d'apartheid. Et le troisième texte, c'est le traité de Rome de 1998, qui porte création de la Cour pénale internationale. Et ces trois textes définissent le crime d'apartheid si trois critères sont réunis. Le premier critère, c'est la domination et l'oppression d'un groupe racial sur un autre. Le deuxième critère, c'est l'utilisation de moyens inhumains, de violence pour que cette situation perdure. Et le troisième critère, c'est la volonté de faire perdurer ce système d'oppression et de domination sur la durée. Et nous avons documenté, au cours de ces 300 pages, la fragmentation territoriale et juridique imposée aux Palestiniens, les entraves à la liberté de circuler, les discriminations dans l'accès au droit à la santé, à l'éducation, à l'eau, aux richesses naturelles de la région. Ce rapport met en exergue la fin des procédures de regroupement familial, les déplacements forcés, la confiscation des terres et des biens fonciers, les démolitions de maisons parce qu'elles n'ont pas de permis de construire, qui de toute façon ne sont jamais accordées. L'expansion des colonies, qui est un crime de guerre au regard du droit international et qui est érigé comme valeur nationale par les partis au pouvoir aujourd'hui en Israël. Il documente les violations infligées au peuple palestinien, les exécutions sommaires en toute impunité, les détentions administratives, la torture, l'éradication des libertés civiles et politiques, les violations des droits d'expression, d'association et de manifestation. Et cela fait 75 ans que ça dure, et c'est pas prêt de s'arrêter au vu des événements récents. Je voudrais aussi dire que je suis très fier de participer à cette rencontre avec Salah Hamouri. Salah qui est le symbole même de l'apartheid. Détention administrative, c'est-à-dire sans charge, sans inculpation, sans droit à avoir une défense, au cours des 9 mois avant son arrivée en France, renouvelé tous les 2 mois sans explication, c'est la porte à l'arbitraire. Salah Hamouri qui a été victime également de la révocation de son statut précaire de résident permanent à Jérusalem-Est. Un statut bâtard. Les personnes, les Palestiniens qui vivent à Jérusalem-Est ne sont ni nationalité, ni citoyenneté. Ils ont un statut précaire de résident permanent qui peut être invoqué pour tout motif. Si la personne est partie longuement de Jérusalem-Est pour faire des études ou pour un travail, ou si la personne ne s'est pas soumise à l'autorité israélienne, ce qui est le cas de Salah. Et Salah, qui a été expulsé de force le 18 décembre 2022 vers la France. Nous devons continuer à nous battre, ensemble, sur la durée, de façon déterminée et pugnace, pour que les responsables politiques de notre pays, je parle de la France, reconnaissent l'apartheid en Israël et dans les territoires palestiniens occupés, et qu'ils exigent son démantèlement. Nous avons fait une première phase de notre campagne, c'était de faire connaître au grand public la situation de l'apartheid. Maintenant, il faut qu'on exige de nos responsables politiques, et il y en a dans la salle, qu'ils reconnaissent cette situation de l'apartheid pour mieux exiger son démantèlement. Le combat sera long, mais nous sommes de plus en plus nombreux à le mener.
Je passe la parole à François Sautret, qui est vice-président du mouvement contre le racisme et l'amitié entre les peuples, le MRAP.
D'abord, je remercie la FPS Paris et la LDH, en particulier la LDH de cette maison qui nous accueille, pour l'organisation de cette réunion, qui montre aussi, dans les conditions du démarrage, toute la difficulté qu'on a aujourd'hui à faire entendre la voix de ceux qui défendent la Palestine, que ce soit les interdictions de réunions auxquelles Salah Hamouri est régulièrement empêché. Mais voilà. Pas seulement à Nancy, où on a réussi à faire annuler par un référé l'interdiction, mais dans d'autres villes, avec ici, dans cette maison, des pressions sur la direction de l'UFESS pour qu'elle annule la réunion. Donc voilà, on a des difficultés, et on le sait, et c'est pas fini pour aujourd'hui. En même temps, je suis content, et pas content, d'être à côté de Salah ce soir. Je suis content parce que c'est quelqu'un pour qui on s'est battu je ne sais combien d'années avec des campagnes successives pour la libération de Salah. Et en même temps pas content parce que s'il est là, c'est pas de son choix, c'est qu'il a été expulsé, déchu de sa nationalité, si on peut appeler ça comme ça, mais enfin en tout cas privé de son droit d'habiter là où il est né, à Jérusalem, et contraint de venir en France, où il a enfin pu retrouver femme et enfant, mais ce n'était pas son choix de venir à ce moment-là, dans ces conditions-là. Et j'étais à Roissy quand t'es arrivé, c'était compliqué. Pourquoi ? Pour nous, pour Elsa, les conditions dans lesquelles ce retour s'est fait. La seule chose qui nous intéresse, nous, c'est savoir si on est d'accord sur les revendications qu'on met en avant. Halte à la colonie, halte au nettoyage ethnique, égalité des droits en Israël, fin du blocus de Gaza, reconnaissance de l'État de Palestine par la France, par l'Union européenne. Sans préjuger de ce que pourrait être un État palestinien, ce n'est pas notre problème. Pour nous, MRAP, mais pour nous, mouvement de solidarité en France, de dire aux Palestiniens ce qui est bon pour eux. C'est à eux de définir, mais pour pouvoir définir ça, encore faut-il qu'ils aient un cadre, entre guillemets, légal, dans lequel ils puissent pratiquer l'autodétermination. Voilà. Aujourd'hui, on est confronté à un gouvernement comme jamais Israël n'a connu, tellement abominable qu'il a réussi à mobiliser des milliers et des milliers de manifestants dans les rues de toutes les grandes villes israéliennes, avec des menaces sur le droit, sur la justice, jamais imaginables. On doit aujourd'hui combattre ces dérives autant que faire se peut. On a réussi à faire que l'ignoble individu dont je ne prononcerai même pas le nom n'ait pu venir en France qu'en se cachant. On a empêché qu'il puisse rencontrer un quelconque ministre ou sous-secrétaire d'État. Il faut qu'il se heurte, qu'il au pluriel se heurte chaque fois qu'ils viennent chez nous. Ils nous le font ici, on leur fera là-bas, à Orly, à Roissy, dans la rue. Voilà.
Merci François. Maintenant on va passer à l'Union juive française pour la paix, Jean-Guy Mesalmer.
Voilà, vous entendez. Bon, d'abord je remercie la FPS et puis la LDH de nous avoir invité, l'Union juive française pour la paix. Je veux saluer le courage de Salah Hamouri dans sa lutte persévérante pour ses droits et pour tous les droits du peuple palestinien. Ce que la lutte de Salah Hamouri est un symbole de ce qu'est la situation du peuple palestinien aujourd'hui. Comme vous le savez, malheureusement, la majorité de la population juive dans le monde, elle est plutôt du côté du régime israélien. Malgré tout, il y a quand même des juifs qui sont révoltés, heureusement, par la situation. L'UJFP fait partie de collectif de juifs contre l'occupation et l'apartheid, un collectif européen et un collectif au niveau international où il y a des pays très variés, le Canada, l'Australie, etc. Voilà. Et je veux dire un mot sur la situation d'aujourd'hui. En quoi nous sommes anti-sionistes. Nous estimons que dès le début, la création de l'État d'Israël était vouée à un processus qui a conduit à la situation d'aujourd'hui. Parce que l'État d'Israël s'est construit sur l'idée que les Juifs ne peuvent pas vivre avec d'autres populations, qu'il faut qu'ils aient un État à eux. Donc, le sionisme, c'est une idéologie de la séparation qui était née dans la période florissante du colonialisme au début du siècle précédent. Et c'est le nom, le sionisme, d'un colonialisme bien particulier qui est construit sur des mensonges, comme par exemple le mensonge de la terre sans peuple pour un peuple sans terre. C'est pas vrai que la terre était sans peuple. L'escroquerie politique, qui est le thème du retour après 2000 ans d'exil, c'est une pure escroquerie de sortir des choses comme ça. Ensuite, la Nakba, l'expulsion d'au moins la moitié des Palestiniens. Voilà, c'est ça le sionisme. Voilà. Il y a eu une période où les gens pensaient que peut-être ça allait vers la paix, ça a été la période des accords d'Oslo, mais il s'est avéré que les accords d'Oslo ont été un piège pour continuer la colonisation. Donc la situation d'aujourd'hui est dramatique, hein, ça a été dit. Pour le moment, il n'y a aucune solution qui se dessine, mais le peuple palestinien continue de résister courageusement par tous les moyens du droit international, aussi bien des moyens pacifiques ou des moyens violents. Le droit international permet la violence dans des situations coloniales. On n'a pas à critiquer ça. On n'a pas à critiquer les moyens que le peuple palestinien se dote pour lutter pour sa libération. Voilà. Et ce que je veux dire aussi, c'est que cette politique d'Israël se fait au nom des Juifs du monde entier. Donc, elle fait passer les Juifs pour des soutiens unanimes aux colons, aux militaires israéliens. Donc, non seulement c'est un crime contre les Palestiniens, mais c'est aussi quelque chose qui favorise l'antisémitisme. Et de ce point de vue-là, les populations juives sont visées aussi. Et en ce qui concerne l'avenir, eh ben l'avenir nous concerne tous. C'est dans quel genre de société on veut vivre. Est-ce qu'on veut vivre dans une société basée sur des ségrégations, sur des gens suprématistes qui se considèrent comme étant des élites, sur des politiques nationalistes, racistes, dominatrices, ou est-ce qu'on veut vivre dans des sociétés où il y ait une égalité complète des droits? Et donc, l'égalité complète des droits, on pense que c'est un devoir de persévérer dans cette voie, quelles que soient nos origines, quelles que soient nos origines religieuses, communautaires, qu'on soit croyant ou pas, comme disait Aragon, celui qui croyait au ciel et celui qui n'y croyait pas, tous unis pour résister à la situation d'aujourd'hui. Alors maintenant, je terminerai pour dire un mot sur l'avenir de la population juive en Israël. Eh bien, cet avenir ne peut se concevoir que si à un moment donné, il y aura un processus de désionisation de la population israélienne, qu'elle finisse par reconnaître ses torts, les crimes qu'elle a commis, et qu'elle ait la volonté de réparer ses crimes. Ce n'est pas du tout acquis que ça s'oriente dans cette voie, mais en tout cas, ça ne s'oriente pas dans cette voie. Bon, il n'y aura pas de solution. Mais il faut dire aussi que la solution, elle n'est pas seulement interne à cette région, elle est aussi internationale. Parce que l'État d'Israël s'est créé dans un contexte international, et donc la solution pour remédier aux catastrophes actuelles, elle aura aussi une dimension internationale. Voilà, c'est ce que je voulais dire, je vous remercie.
Merci Jean-Guy pour cette intervention. J'en profite pour rappeler que les attaques du ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin, contre la Ligue des droits de l'homme, la LDH, ne sont pas gratuites. Évidemment, c'est sur les prises de position de la LDH en général. Et en quelques jours, il y a eu plus de 20 000 signataires de tous horizons politiques, de toute obédience religieuse, pour dire qu'il fallait défendre ce droit à l'expression et que l'opinion publique en France a le droit de s'exprimer. C'est exactement le but de cette réunion ce soir, pour comprendre un peu plus les choses, parce que, évidemment, nous avons un problème, qui est l'attitude des pouvoirs publics, l'attitude du gouvernement français, qui est du deux poids, deux mesures. Autant, évidemment, il faut dénoncer les attaques de la Russie contre l'Ukraine et l'invasion et la tentative de prendre des territoires. Mais autant on ne peut pas comprendre que, s'agissant d'Israël, rien ne soit dit, rien ne soit fait, et que les résolutions de l'ONU, des dizaines, voire des centaines, soient lettres mortes, qu'elles ne soient jamais appliquées, et que les grandes puissances qui ont pourtant les moyens de les faire appliquer ne le fassent pas, s'agissant d'Israël, Or, Israël ne peut pas être au-dessus des lois, et que les choses soient claires pour tout le monde, et je pense que, ici, je prêche du convaincu. Il ne s'agit pas de l'existence d'Israël, il s'agit de la politique menée par Israël, qui se bâtit sur la colonisation et sur l'occupation des territoires palestiniens. Et sur ça, je pense que peut-être que nous avons des moyens à trouver d'intervention qui ne sont pas simplement des expressions publiques, qui sont déjà importantes, d'essayer de sensibiliser en France sur ces questions-là, mais peut-être aussi de saisir un petit peu plus la représentation nationale à tous les niveaux, que ce soit au niveau municipal, que ce soit au niveau départemental, que ce soit au niveau des députés, que ce soit au niveau des sénateurs, et y compris sur la politique internationale de la France telle qu'elle est menée. Par exemple, arrêtons de vendre des armes à Israël, qu'Israël utilise pour la colonisation et contre les Palestiniens. Mais aussi, utilisation du droit de la France, qui est membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, pour que réellement des actions soient entreprises pour empêcher Israël de continuer sa politique de colonisation et d'occupation. C'est largement possible, puisque des sanctions sont prises contre d'autres pays. Pourquoi aucune sanction n'est jamais prise contre Israël? Et je pense que, comme le disait un peu Jean-Guy tout à l'heure, certains disent, si vous faites quelque chose contre Israël, c'est que vous êtes antisémite. Une seule démonstration que non, ici. Mais ne rien faire par rapport à la politique menée par Israël, en réalité, renforce le camp des antisémites qui existent. Ne nous le cachons pas. Que l'extrême droite et que les fascistes français ou européens aient abandonné leur antisémitisme pour un temps, pour se regrouper contre les migrants et contre les arabes et contre les musulmans, c'est une chose. Mais historiquement, ils en ont toujours besoin et ils sont prêts à revenir contre les juifs quand ils en auront besoin. Et donc ici, que les choses soient claires, la question n'est pas contre les juifs. Au contraire. Et les juifs qui manifestent aujourd'hui à Tel Aviv et ailleurs dans d'autres villes en Israël, y compris contre la colonisation, il s'agit de questions humaines, de questions humanistes, de questions de défense, y compris de Salah Hamouri en tant qu'être humain, en tant que ce qu'est Salah Hamouri et ce qu'il a vécu. Mais le cas de Salah Hamouri, ça a été dit par les intervenants précédents, est une question fortement politique. Et je passe la parole à Bertrand Lebrun, qui est président de l'association France-Palestine Solidarité.
Merci Pierre. C'est vraiment toujours très important d'être avec Salah. C'est un plaisir d'être avec toi, Salah, ce soir, même si on l'a dit qu'il préférait ne pas être en France en ce moment. Je voudrais, dans la suite de ce qu'a dit Pierre Barbancé, commencer par un mot de solidarité avec la Ligue des droits de l'homme, parce qu'on est tous ensemble. Quand l'un d'entre nous est attaqué, on est tous attaqués. Donc nous sommes vraiment tous solidaires et nous tenons vraiment à l'affirmer au niveau de l'AFPS avec la plus grande force possible. Nous sommes ensemble dans nos combats et donc nous sommes avec vous face aux attaques que vous subissez de la part du gouvernement français. Je voudrais aussi dire mon admiration pour le travail d'Amnesty. Vraiment bravo. Bravo aussi, vous aussi, Amnesty, vous avez subi des attaques quand vous avez sorti votre rapport. Ça a l'air de s'être un petit peu calmé, mais enfin, il y avait quand même l'épisode de Lyon en janvier qui était pas triste. Donc, là aussi, nous sommes ensemble. Bien sûr qu'il faut dénoncer ce régime d'apartheid, il faut le faire sur la base du droit international, et ça ne nous empêche absolument pas, bien sûr, de dénoncer toutes ces facettes, que ce soit l'occupation qui devient illégale par sa durée, la colonisation, le blocus de Gaza, le sort des réfugiés palestiniens, le sort des Palestiniens d'Israël et des Palestiniens de Jérusalem, bien entendu. Donc, je voudrais quand même dire un tout petit mot des voyous qui sont venus là en début, parce que c'est des voyous, mais c'est l'écume. Si ces voyous peuvent agir, c'est qu'ils en sont encouragés. Si l'Union des étudiants juifs de France adopte le narratif israélien pour attaquer Salah Hamouri, mais au nom de quoi? C'est qu'ils y sont encouragés aussi par d'autres organismes, notamment le CRIF, qui se veut plus respectable avec des vestes et des cravates et qui n'ira pas faire le coup de poing, mais qui va encourager. C'est aussi le climat détestable établi par un certain nombre de députés français, notamment contre notre amie Yersinia Soudé, ici présente, qui tient bon, bravo. Le climat détestable aussi entretenu par Gérald Darmanin. Donc, effectivement, c'est un combat, mais ce que je voudrais dire, c'est que ce combat, on est en train de le gagner. Certes, il y a eu un premier recul face aux tentatives d'intimidation à Lyon. Mais depuis, on a fait, effectivement, la riposte, on a organisé ensemble. On a écrit à la Première ministre ensemble, avec la CGT, FSU, Solidaire, le MRAP, la LDH. On était ensemble pour, effectivement, dénoncer à la fois ces attaques de Darmanin contre Salah Hamouri, ces tentatives d'empêcher les réunions. Nous étions ensemble aussi pour résister, contester l'interdiction à Nancy, et nous étions là devant la MJC de Nancy pour effectivement écouter Salah Hamouri prendre la parole. À 19h, on avait la décision du tribunal administratif, et à 19h30, on était là pour effectivement avoir notre droit de réunion. Et Salah nous en parlera certainement mieux que moi, mais Salah revient d'une tournée dans le Nord-Bretagne, avec énormément de monde à toutes les étapes, et sans incident. Donc oui, on peut gagner cette bataille pour la liberté d'expression. Oui, bien sûr, le droit de parole de Salah est un combat, mais ce que je voudrais dire, c'est qu'on est très fort ensemble, et qu'on est en train de gagner. Alors, la situation en Palestine, je pense que Salah en parlera beaucoup mieux que moi. Je pourrais juste dire un mot, c'est que Salah, ta parole est extrêmement importante en France. La situation en Palestine est terrible. Elle réclame une mobilisation exigeante, forte en France. Et je pense que tu es de ceux qui peuvent effectivement contribuer à accroître cette mobilisation, et on t'en remercie beaucoup.
Donc la parole est à Salah Hamouri.
Merci surtout pour l'invitation. Je vous remercie tout d'abord pour cette initiative de me permettre de parler. Pour toutes ces années de soutien, de solidarité avec moi et avec les restes des prisonniers politiques palestiniens et aussi avec le peuple palestinien, je vous remercie car pour nous, la solidarité ici en France et ailleurs, ça fait partie du combat du peuple palestinien et un élément très important pour nous et un élément effectif pour la lutte du peuple palestinien. Aujourd'hui, le 18 avril, ça fait exactement 4 mois que je suis arrivé ici en France, expulsé, déporté en force depuis Jérusalem, depuis le pays et la ville où j'étais né, j'ai grandi, j'ai vécu et je veux encore vivre. J'étais envoyé vers la France d'une manière assez agressif, prise de ma cellule de prison à 11h le soir. Je suis resté menotté jusqu'à l'arrivée de Roissy. Cette force occupante qui pense que de continuer ses projets de ce nettoyage ethnique à Jérusalem et ailleurs, elle va pouvoir gagner cette bataille. Comme je l'ai dit à mon arrivée à l'aéroport, pour moi, la Palestine, c'est une cause et c'est pas la géographie. J'ai changé d'endroit, mais je change pas de convictions et je change pas du combat. Aujourd'hui, ce qui se passe en Palestine, à Jérusalem, je ne veux pas parler de tout parce qu'on est serré dans le temps, surtout à Jérusalem, moi, ma carte de résidence, elle était retirée sur la base d'une loi qui s'appelle « Défaut d'allégeance à la force occupante » qui était faite en 2018 par le Parlement israélien. et qui donne le pouvoir au ministre de l'Intérieur de retirer la carte de résidence des Palestiniens de Jérusalem sous prétexte qu'il y a un défaut d'allégeance. On est 15 Palestiniens qui subissent de cette retirée de cette carte de résidence. Mais aujourd'hui, en février, une nouvelle loi qui a élargi le pouvoir du ministre de l'Intérieur israélien de revoquer la carte de résidence des Palestiniens de Jérusalem, mais aussi la nationalité des Palestiniens, la nationalité israélienne des Palestiniens qui vit en Israël, sous option que ces familles ou ces prisonniers reçoivent de l'argent de l'autorité palestinienne. Il y a aussi la peine de mort qui a été votée qui est passée en première vote, et je pense qu'elle va passer dans le deuxième et la troisième vote. Ce qui se passe surtout à Jérusalem depuis quelques temps n'est pas caché. La force occupante, elle a un projet très clair depuis la déclaration que Jérusalem unie est le capital de l'État d'Israël. Il y a un plan qui est clair et n'est pas caché d'avoir une majorité israélienne et une minorité arabe à Jérusalem. Mais d'appliquer ces plans, il faut se débarrasser au moins de 200 000 habitants de Jérusalem pour avoir une majorité de 60 ou 70% israélienne. Ça veut dire qu'il faut enlever au moins 200 000 habitants de Jérusalem-Est. Pour les Israéliens, toutes les méthodes sont légales. Il y a la construction du mur, destruction des maisons, de ne pas autoriser la construction pour les Palestiniens, la colonisation, les projets colonial à Jérusalem, ce qui concerne le tramway et d'autres projets, les lois qui sont faites pour faire partir les gens. Moi, je pense que ici, maintenant, et on le voit depuis le début de Ramadan, c'est intensifié, les attaques contre les habitants de Jérusalem, tout est fait pour faire partir les Palestiniens de Jérusalem. Je pense qu'on est devant vraiment un deuxième et un troisième vague de nettoyage ethnique qui veut juste faire partir les Palestiniens de Jérusalem. Aussi, le deuxième sujet, c'est les prisonniers politiques palestiniens. Le sujet dans lequel j'ai vécu depuis l'âge de 16 ans, en 2001 jusqu'à la dernière détention en 2022. 20 ans de faire des allers-retours, j'ai passé en total 10 ans dans les prisons israéliennes. Je pense que le système d'incarcération des Palestiniens en général, et ça fait un des moyens de la destruction de la société palestinienne. Depuis 1967 jusqu'à aujourd'hui, il y avait bien avant, 850 000 Palestiniens sont passés par les prisons israéliennes. Cette méthode de détruire la société palestinienne par les arrestations qui ne s'arrêtent pas depuis des années et des années est bien faite et bien systématisée. Parce que quand on voit les conditions dans lesquelles les Palestiniens sont arrêtés, mais aussi dans quelles conditions les prisonniers politiques palestiniens sont mis, la conclusion de 20 ans d'harcèlement, je pense que les prisons israéliennes sont faites pour casser et briser la psychologie et la mentalité des Palestiniens dans les prisons. C'est de rendre un Palestinien à charge sur sa famille, sur sa société aussi. Aujourd'hui, il se trouve 4900 prisonniers politiques palestiniens dans les prisons israéliennes. Des prisons, on les trouve sur toute la carte de la Palestine historique, à Haïfa, au Negev. Toutes les prisons se retrouvent hors de la ligne verte. Ça veut dire que toute la population qui est emprisonnée sont transférées hors de la ligne verte. 4900 prisonniers palestiniens, parmi eux 1000 prisonniers en détention administrative, 160 enfants, 40 femmes, 1000 prisonniers malades, 300 prisonniers qui ont passé plus que 20 ans, 50 prisonniers qui ont passé plus que 25 ans et une dizaine qui ont passé plus que 30 et 35 ans. Ces Palestiniens qui ont passé plus de 30 ans, ils sont longtemps avant les accords d'Oslo dans les prisons israéliennes. Les conditions de détention des prisonniers politiques palestiniens. Je veux commencer par les détentions administratives. La détention administrative, c'est une loi qui a été faite par le mandat britannique avant l'occupation israélienne de 1948. Et l'occupant israélien l'a repris pour l'appliquer sur les Palestiniens. 1000 prisonniers, parmi eux 6 enfants et 3 femmes. Cette arrestation, cette détention administrative, c'est un ordre militaire qui permet à l'armée israélienne d'arrêter n'importe quel Palestinien d'une durée de 1 mois à 6 mois, mais cette période est renouvelable. C'est-à-dire que tu peux passer des mois et des mois et des mois et des mois sans savoir pourquoi tu es en prison. Cette détention, elle est basée sur ce qu'on appelle le dossier de sécurité secret. C'est le dossier de sécurité secret qui est fait par le renseignement israélien. Reste discret entre le procureur militaire et le juge militaire. Ni le prisonnier, ni l'avocat a le droit d'accès au dossier. Moi, je l'ai vécu en tant que détenu, et je l'ai vu en tant qu'avocat. Cette détention administrative, qui est basée sur ce dossier de sécurité secret, où il n'y a pas de fait, tu n'es pas jugé, il n'y a pas de tribunal, tu ne sais pas pourquoi vraiment tu es en prison. Aujourd'hui, 1000 prisonniers. À une époque, on était 2000. Il y a des prisonniers qui ont passé plus de 10 ans et 12 ans en détention administrative sans savoir pourquoi ils sont en prison. On les arrête 1 an, 2 ans, 3 ans en détention administrative. On les libère. Quelques mois, on les arrête. On les libère. Depuis 2002, depuis la réoccupation de la Cisjordanie, je connais des dossiers, des personnes qui ont passé 15 ans en détention administrative. Cette loi, cette utilisation de la détention administrative aussi, elle est faite pour casser la société palestinienne, mais aussi c'est pour casser totalement les familles. Il y a des pères, il y a des mères que ça fait 15 ans et 10 ans qu'ils ne sont pas rentrés chez eux, à part quelques mois là, et leur vie, elle est totalement détruite à cause de cette détention arbitraire. Aussi les enfants, 160 enfants. Les enfants, ils sont détenus dans les mêmes circonstances de détention que les prisonniers adultes. Aucune différence. Tous les droits des enfants sont confisqués par l'occupant israélien. Israël, malgré qu'elle avait signé la Convention des droits des enfants, jusqu'à aujourd'hui, elle refuse d'établir un tribunal spécial pour les enfants. Les enfants sont jugés dans les mêmes tribunaux militaires illégaux que les prisonniers adultes. Et les enfants n'ont pas le droit, par exemple, de continuer leurs études pendant les mois et les années de détention. Il y a des cas où les enfants n'ont pas le droit de visiter leurs parents pendant des mois et des années. Parce que n'importe quel Palestinien, quand il est arrêté de la Cisjordanie ou dans la bande de Gaza, les premiers 3 mois, il n'a pas le droit de visiter parce qu'il y a un procès de demande d'autorisation pour pouvoir visiter. Cette demande, elle traîne pendant 3 mois ou 4 mois. Un enfant, il peut passer les premiers mois sans pouvoir visiter et rendre visite et avoir contact avec sa famille. Même les circonstances quotidiennes de ses enfants. Aujourd'hui, on a le prisonnier, vous avez tous et toutes entendu parler de Ahmad Manansra. Ahmad Manansra qui était arrêté à l'âge de 13 ans. Il était jugé à 13 ans de prison. Vu la torture psychologique et physique qu'il a subie pendant son interrogatoire, il a développé des maladies psychologiques. À la place de donner de soins à ce gamin de 13 ans, depuis 2 ans, il se trouve à l'isolement total. Il est isolé dans une petite cellule de 2 à 3 mètres, enfermé, tout seul. Il n'a pas le droit de visiter, pas le droit de soins adaptés pour sa maladie. 2 à 3 fois, sa remise de peine, elle était refusée par l'administration et les tribunaux civils israéliens. Aujourd'hui, cet enfant ne reconnaît personne. Il ne reconnaît plus sa famille, ses avocats, et les Israéliens refusent de le libérer. Les enfants dans les prisons qui sont partagés, si on veut dire, dans 2 prisons essentielles, une à côté de Ramallah et une à côté de Jenin. Le quotidien des enfants, il est difficile parce que l'administration de prison jusqu'à Récemment, elle a refusé l'intervention des prisonniers adultes dans les sections des prisons pour les enfants. On a fait plusieurs demandes juste pour leur demander qu'on aille faciliter la vie des enfants dans la prison, parce qu'on ne peut pas enfermer 80 enfants dans une section et on leur dit débrouillez-vous pour organiser votre vie, faire à manger, être sage, s'adapter pour la prison, passer des mois et des années sans pouvoir continuer les études, sans pouvoir faire à manger, parce que les enfants, des fois, ils ne savent pas faire à manger. Les enfants, des fois, ils sont torturés par l'administration de prison. À plusieurs reprises, les cellules des enfants, ils étaient harcelés par l'administration de prison, des fouilles la nuit, même de la gaz, de la lacrymogène, elles étaient envoyées aussi dans les cellules des enfants. Le système carcéral israélien, il est fait pour vraiment assassiner l'enfance de ces enfants. Aujourd'hui, 6 enfants en détention administrative sans savoir pourquoi ces enfants ils sont en prison. Des enfants, on peut trouver des enfants de l'âge de 12, 13, 14 ans, 15 ans en prison. Et ça ne s'arrête pas. Et le chiffre des arrestations depuis le début de l'année, il est en train d'augmenter, augmenter, augmenter et augmenter. Les femmes palestiniennes détenues, aujourd'hui 40 femmes aussi subissent des mêmes circonstances des détentions. Des fois c'était pire pour les femmes, parce que dans quelques cas, on a vu des femmes qui étaient arrêtées alors qu'ils étaient enceintes, et pour l'accouchement, ils étaient obligés d'accoucher à un hôpital dans une prison, mais ils étaient menottés, une main et un pied, dans un lit, dans un hôpital, ils étaient obligés d'accoucher pendant qu'ils étaient menottés dans le lit. Et les femmes aussi subissent des mêmes circonstances de détention. L'enfant qui est né en prison, on le garde 2 ans avec sa maman en prison. Et après 2 ans, on le fait sortir de prison pour sa famille. Mais ça arrivait dans quelques cas qu'il y avait la famille entière arrêtée. Il y avait le père, les frères et les sœurs et la mère qu'ils étaient en prison. Alors on envoie l'enfant né en prison dans la grande famille. Aujourd'hui, 40 femmes et 3 femmes en détention administrative. Il y a aussi la question des prisonniers malades. Les prisonniers malades, il y a 1000 prisonniers malades des différentes maladies. Il y a des prisonniers avec des maladies graves, il y a des prisonniers avec des maladies moins graves. Avant de commencer de parler de ça, je veux juste souhaiter à mon ami, à mon camarade Walid Dakka, qui est depuis 35 ans en prison. Il a le cancer, une partie de ses poumons, il était opéré avant-hier, une partie de ses poumons, elle était enlevée. Ça fait des dizaines d'années qu'il est malade, qui subit de plusieurs maladies, et jamais le soin adapté n'est donné à ces maladies. Cette politique de négligence médicale systématisée, qui est vraiment systématisée par l'administration de prison, elle est faite que pour mettre fin à la vie des prisonniers malades. Parce que vraiment, au moment que tu tombes malade d'une maladie grave dans une prison, tu sais bien que c'est la fin. Tu commences à chercher la fin et voir la fin de ton destin dans la prison. Parce qu'il n'y a jamais le soin adapté. Pour les premières semaines, pour les premiers mois, c'est toujours l'aspirine pour toutes les maladies que les prisonniers peuvent subir. C'est que de l'aspirine. Alors si tu as une maladie qui est grave, c'est clair qu'elle va commencer à s'aggraver de plus en plus en plus en plus. Moi j'ai vu des prisonniers avec moi, les deux plus récents qui sont morts au début de l'année, Nasser Abouhmed et un autre prisonnier, ils étaient morts à cause de cette négligence médicale. Depuis 1967 jusqu'à aujourd'hui, 240 prisonniers palestiniens morts dans les prisons israéliennes à cause de la torture. Il y en a qui sont morts à cause de la torture physique. Dans les interrogatoires, il y en a qui sont fait assassiner après leur arrestation, il y en a qui sont morts à cause de leur maladie. Il y a plusieurs façons. de la mort de 240 prisonniers. Je me souviens bien d'un ami, c'est Barney Willy, du plateau du Golan occupé, qu'on s'est rencontré en 2009, alors qu'il avait déjà passé 23 ans en prison. Et au bout de sa 24e année, ils ont découvert qu'il a le cancer. Et après quelques mois, il s'est fait opérer et ils l'ont remis dans notre cellule. Et à la conseil du docteur de la prison, le docteur il a dit que ce prisonnier il va à peine tenir 6 mois et après il va être mort. Bon, un tribunal il a remis sa peine et il était libéré. Après un an, ce prisonnier n'était pas mort. Alors le même tribunal qui l'a libéré, il a essayé de le remettre en prison parce qu'il a fait des faux calculs. Il y avait des faux calculs de la part du docteur. Alors cette négligence médicale qui a fait 240 morts. Pourquoi? Parce que je vous donne des exemples pour mieux expliquer. Quand on était par exemple dans la prison de Negev, c'est une prison. C'est une base militaire où il y a 1600 prisonniers. On était 1600 prisonniers détenus dans une base armée, dans le désert. On avait le droit à un docteur et un dentiste. Alors, va trouver quel docteur et quel dentiste peut soigner 1800 personnes. Parmi eux, il y a des prisonniers âgés, il y a des prisonniers malades. Il y a des différentes maladies, il y a des maladies qui se développent à cause des circonstances quotidiennes dans le détenu, dans le désert, sous des tentes. Alors cette négligence médicale, elle fait des morts chaque année dans les prisons. Et on voit le chiffre, il est en train d'augmenter. Mais le plus pire et le plus inhumain, c'est que l'occupation israélienne, aujourd'hui, après la mort des prisonniers palestiniens, elle continue la détention des corps morts. Elle tient les corps morts dans ce qu'on appelle des cimetières à numéros et dans des frigos jusqu'à la fin de la peine du corps mort. Aujourd'hui, il y a 12 corps des prisonniers palestiniens qui sont détenus par l'occupation israélienne juste pour une seule raison, pour la continuité de la torture de ce corps mort, mais aussi de la continuité de la torture de sa famille. Malgré ça, je ne vais pas être long pour pouvoir donner la parole à la salle. Malgré ces circonstances des détentions, de la torture quotidienne qui essaye de dominer le cerveau, de dominer la psychologie de ces prisonniers. Pour nous, pour moi et pour d'autres, on savait le but de cet emprisonnement. On savait le but, c'est de nous casser. Alors on a tout fait l'inverse pour résister dans la prison. Dans la prison, il y a plusieurs moyens de résister cette force occupante. Il y a plusieurs moyens pour dire non à l'administration de prison. Parce que pour nous, la prison, on change de méthode de résistance, mais on n'arrête pas notre résistance dans la prison. Pour nous, c'était interdit que l'administration et l'occupation israélienne nous contrôlent et nous dominent pendant les années d'incarcération. Alors, les moyens de résistance dans la prison, ils sont nombreux. De refuser de se mettre debout pour le compte, ils nous comptaient trois fois par jour, quatre fois par jour, de refuser de manger pendant quelques jours, plusieurs. Mais la plus symbolique et la plus forte résistance pour nous, c'était la grève de la faim. La grève de la faim, pour nous, c'était un moyen de résistance stratégique sur laquelle on comptait pour résister, pour des fois protester contre la détention administrative comme on l'a fait en septembre dernier, mais aussi pour améliorer nos circonstances de détention quotidienne. Une grève de la faim, ce n'est pas un mot qu'on dit comme ça, parce que pour préparer une grève de la faim et déclencher une grève de la faim, il faut du temps, il faut au moins un an, deux ans de préparation pour une grève de la faim. pour faire la tournée de l'information dans les 20 prisons, discrètement, de communiquer avec l'extérieur, de préparer la liste des demandes, qu'est-ce qu'on veut de choisir les gens qui vont gérer cette grève de la faim, de mettre les listes des gens qui vont participer à la grève de la faim, parce que dans une grève de la faim, on mettait de côté les gens âgés, les prisonniers malades, les enfants, les gens qui ne peuvent pas tenir des semaines sans pouvoir manger, parce que vraiment dans une grève de la faim, on est vraiment dans une bataille et une guerre. Une guerre que notre seul instrument, c'est nos convictions et c'est notre estomac vide et la solidarité avec nous à l'extérieur face à une armée et un gouvernement qui met tous ses moyens possibles pour casser cette grève de la faim. Les méthodes pour casser cette grève de la faim, elles étaient nombreuses. Moi, en septembre, j'étais mis à l'isolement pendant tous les jours de 20 jours de grève de la faim. J'étais mis dans une cellule de 2 à 3 mètres, une cellule dégueulasse, où il y a un petit lit qui est en hauteur de 3 ou 5 cm du sol, attaché au sol, un petit matelas qui n'est pas épais, et une couverture. Tous mes biens étaient confisqués. Une caméra 24 heures sur 24 heures sur moi. J'avais le droit seulement à une bouteille d'eau que je l'ai gardée pendant 20 jours. Le sel, qui était important pour nous, il était aussi confisqué par l'administration de prison. Des petites toilettes en face du lit et juste un petit mur qui les sépare. Et tu dois passer tous les jours de cette grève de la faim là-bas. Dépression quotidienne. Le corps, après 4-5 jours, normalement, si tu peux dormir 4-5 heures au maximum, c'est très bien. Alors la nuit, quand tu dors, ils viennent après 2 heures, 3 heures de sommeil, ils viennent, l'administration de prison, elle vient, elle ouvre la porte de la cellule, ils te réveillent pour dire qu'on veut fouiller cette cellule. Cette fouille, qu'il n'y a rien, déjà il n'y a rien dans cette cellule, c'est juste pour obliger à se réveiller, à se mettre debout, à sortir, perdre de la force et re-rentrer dans cette cellule et tu ne peux plus dormir après, c'était pour t'affaiblir. Déjà cette cellule, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de soleil, il n'y a qu'une porte blindée avec une petite fenêtre de 30 cm avec des grillages dessus. Par exemple, ils viennent te proposer à manger tous les jours, ils te ramènent à manger tous les jours. La nuit, ils viennent te réveiller pour te dire on est prêt à te ramener des burgers, de ramener le repas préféré pour toi de l'extérieur, juste pour mettre la pression pour manger. Ça nous est arrivé aussi en 2011 pendant une grève de la faim. On était isolés dans une section où on était 80 grévistes. Il y avait 15 cellules et au milieu, il y avait la cour, elle était au milieu des cellules. Au bout de quelques jours de grève de la faim, l'administration de prison, elle a installé des ventilateurs sur les portes des cellules. Et après quelques minutes, ils ont fait rentrer des prisonniers des droits communs israéliens. Ils ont démarré les ventilateurs, ils ont installé leur barbecue derrière les ventilateurs. Ils ont commencé à faire leur barbecue pour faire rentrer l'odeur de la viande, des oignons dans nos cellules, pour nous forcer à demander à manger. Ça arrivait aussi une fois, dans les années 80, qu'il y avait une grève de la faim, et il y avait une décision politique israélienne de casser cette grève de la faim, n'importe quelle soit, n'importe comment, quoi. Et ben, la méthode, c'était de prendre en force 3 prisonniers, de les attacher sur un lit, de faire rentrer un tube du nez qui arrive jusqu'à l'estomac et de renverser du lait. Mais malheureusement, avec 2 prisonniers, le tube il est allé vers les poumons et ils ont renversé du lait dans les poumons et les poumons ils étaient pleins de lait et les prisonniers ils étaient morts sur place. Alors pour eux, toutes méthodes sont légalisées pour arrêter et casser la grève de la faim. Pour nous, on avait pris une décision claire qu'on ne va pas laisser cette détention et ces années de prison nous casser. Pour nous, c'était clair que la prison elle est faite pour ça et nous, on veut résister à ça. On a fait tout pour rendre utile les mois et les années, des années qu'on passait en prison. On a organisé notre vie, on avait nos élections discrètes, nos élus discrets, nos cours. Moi personnellement, tout mon parcours et mes leçons, je peux dire, politiques et d'autres, je l'ai gagné en prison, grâce à des anciens prisonniers, mais aussi parce que en prison, tu peux trouver des intellectuels, des profs des universités. Alors, on organisait notre vie de cours 5 fois par semaine, on faisait de la politique, des économies, de la sociologie, et des fois des journalistes, quand t'as des journalistes. On a tout fait pour ne pas nous casser dans la prison. Aujourd'hui, moi, après 10 ans de prison, 20 ans d'harcèlement, une déportation forcée, je suis plus convaincu de ce que j'ai appris en prison et ailleurs, qu'il n'y a pas une force occupante qui reste jusqu'à la fin. Israël est comme d'autres, comme la France en Algérie, comme les Américains et les Français au Vietnam, comme l'Afrique du Sud et ailleurs. Israël, l'occupation Israël aura un fin. Aujourd'hui, notre rôle, on est ici pour participer à la lutte du peuple palestinien, d'être avec la lutte du peuple palestinien. Parce que c'est notre droit de résister, notre droit de prendre la parole ici en France, mais aussi de résister, d'être solidaire, de résister en Palestine. C'est droit, notre droit qui est garanti dans le droit international. On continuera, malgré ce qui s'est passé ce soir, et malgré tout ce qui se passe en Palestine. Parce que ce qui s'est passé ce soir fait partie de ce qui se passe en Palestine. Les choses ne sont pas séparées. On continue le combat. On continue le combat du peuple palestinien, de la résistance palestinienne. Je ne veux pas que mes enfants subissent les mêmes circonstances en Palestine que moi j'ai subi. Je veux lutter et continuer mon combat sur la base de garantir un meilleur futur pour les générations palestiniennes. On va démontrer, et je veux démontrer avec vous et avec d'autres, à cette occupation israélienne, que la Palestine n'a jamais été une terre sans peuple, elle ne sera jamais une terre sans peuple pour un peuple sans terre. Et je vous remercie.
Merci Salah pour c'est un témoignage et un manifeste politique, humain. Et c'est une façon d'essayer de briser cette résistance palestinienne et ce qui est intéressant, c'est cette résilience palestinienne. Parce qu'ils ne sont pas arrivés, après plus de 50 ans, ils ne sont pas arrivés à briser cette résilience-là, même si ça continue. Et aujourd'hui, l'appel de Salah, l'appel des Palestiniens aujourd'hui, c'est la continuation de ce combat. Donc maintenant, la parole est à vous.
Alors la première question par rapport à l'autorité palestinienne et Marwan Barghouti. C'est vrai que la création de l'autorité palestinienne en 1900, après les accords d'Oslo, tout le monde l'a applaudi. Tout le monde a cru que c'est le moment de paix. Malgré que les grandes forces, ils savaient bien que ce n'était pas la paix. Cette création de l'autorité palestinienne, elle avait certains buts qui étaient clairs. Aujourd'hui, 30 ans après les accords d'Oslo, on voit bien que les accords d'Oslo, c'était des pièges. C'est un piège pour les Palestiniens. On voit les conséquences de cet accord, comment les accords, ils étaient juste, si on veut dire, un point de plus pour l'occupation. Aujourd'hui, le rôle de l'autorité palestinienne, la destruction israélienne de l'autorité palestinienne, elle a conduit à ce rôle. Moi, je pense que de sortir de cette crise inter-palestinienne, la solution, c'est de retourner vers l'OLP, parce que l'OLP, c'est le représentant des Palestiniens dans tout, là où ils se trouvent, les Palestiniens. L'OLP est la représentante de 14 millions des Palestiniens qui se trouvent à l'intérieur et à l'extérieur de la Palestine. Ce que beaucoup des gens ils veulent, des élections de l'OLP qui représentent les 14 millions des Palestiniens. Il faut arrêter de l'illusion de dire que les Palestiniens, ils ont un État. Nous, on n'a pas un État. Nous, pour nous, c'est le moment de retourner vers le mouvement de libération nationale qui est basé sur une résistance. Parce que on a les Palestiniens et leurs dirigeants de l'OLP, ils ont essayé la paix avec ce qu'on appelle Israël en 1993. On voit bien les conséquences. Moi, je crois bien que les élections pour l'OLP, qui représente les 14 millions des Palestiniens, qui donne la responsabilité de gérer la question palestinienne aux nouvelles générations, basée sur une base de résistance, je crois que ça sera la meilleure réponse que d'avoir un nouveau président
élu. Je veux juste ajouter un petit mot sur ce qu'a dit Salah. D'abord sur l'autorité palestinienne. C'est clair, il est clair aujourd'hui que l'autorité palestinienne est une espèce d'organisme politico-administratif qui joue le rôle de collaboration. Le collaborateur, il faut appeler un chat malheureusement. Mais c'est vrai que les accords d'Oslo ont été signés par l'OLP. Et c'est vrai que ces accords d'Oslo, c'est aujourd'hui ce dont se sert Israël, sur lequel s'appuient y compris les pays européens, les États-Unis, etc., sur le fait que ces accords d'Oslo font que la Cisjordanie est séparée en trois entités. La zone A, la zone B, la zone C. Zone A, sous responsabilité sécuritaire administrative palestinienne. Zone B, sous responsabilité administrative palestinienne et sécuritaire israélienne. Et zone C, qui est plus de 65% de la Cisjordanie, sous total contrôle d'Israël. Donc déjà, c'est un leurre. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure des années, le poids et la représentation et la réalité de l'OLP a commencé à disparaître. Mais c'est aussi pour ça qu'on peut se poser des questions, je ne vais pas aller plus loin sur ça, mais comment se fait-il qu'Arafat disparaisse de cette manière-là en 2004, après avoir été encerclé en 2002, quand Israël renvahit à nouveau militairement de la Cisjordanie. En 2004, Yasser Arafat est venu mourir ici, dans cette ville, sans qu'on sache toujours, bizarrement, de quoi il est mort. Or, politiquement, on voit de quoi il est mort. On voit de ce qu'il défendait, et notamment, et c'est d'où l'importance de l'Organisation de libération de la Palestine, de l'existence de l'OLP, c'était aussi la représentation de l'ensemble des Palestiniens, donc du droit au retour des Palestiniens. Et c'est sur ça que tout se joue. Et Mahmoud Abbas, et quand il y a eu des pressions israéliennes et américaines pour empêcher que Yasser Arafat réunisse en même temps le gouvernement de l'autorité palestinienne et le comité central de l'organisation de la Palestine, de l'OLP, c'était aussi pour éviter ce que moi j'appelle un syndrome soviétique, c'est-à-dire que le parti se mette à disposition complètement de l'administration gouvernementale. Et donc que l'OLP garde son rôle d'agitation et de vecteur politique et de combat politique. Ce que l'OLP n'a plus fait, il a complètement disparu. Or, ce qui se passe depuis, notamment en 2021, au printemps 2021, quand il y a eu toute la révolte palestinienne au Ramadan, ça a commencé à Jérusalem-Est, c'est Gaza, mais c'est aussi l'ensemble de la Cisjordanie et les Palestiniens de 1948, c'est-à-dire ceux qui vivent dans les territoires israéliens, c'est-à-dire cette jeunesse palestinienne, celle qu'on appelle la jeunesse d'Oslo, celle qui est née au moment de la signature des accords d'Oslo, c'est elle qui se révolte et qui retrouve son chemin historique au-delà des frontières qui ont été créées par la colonisation et par l'occupation. Et ça, c'est profondément, c'est très très intéressant, c'est ce qui est en gestation aujourd'hui dans les territoires palestiniens. C'est-à-dire cette recherche, parce que effectivement Mahmoud Abbas, il est président de l'autorité palestinienne, il est président de l'OLP, il est président du Fatah, qui est la principale organisation palestinienne, mais pas la seule. Il est incapable d'eux, pas simplement parce qu'il a 88 ans, pas simplement parce qu'il n'est pas sénile, mais pas parce qu'il a 88 ans. Parce que politiquement, il ne veut pas, et que cette OLP-là ne développe rien et ne propose aucune alternative politique à l'impasse dans laquelle les Palestiniens se trouvent aujourd'hui. Et c'est cette recherche-là qu'on peut constater, qui est en cours, et ce qui est intéressant encore une fois, c'est que ce n'est pas simplement à Gaza, dirigé par le Hamas, et pas simplement en Cisjordanie, dirigé par le Fatah et l'autorité palestinienne, mais c'est l'ensemble des Palestiniens, y compris dans les camps de réfugiés palestiniens à l'intérieur de la Palestine, et y compris à l'extérieur, en Jordanie, en Syrie et au Liban. Donc je crois que c'est ça qui est intéressant. Et ça va de pair, effectivement, avec
avec ce qui se passe dans la région. Les pays arabes n'ont jamais rien fait à part en parole pour le peuple palestinien, parce qu'ils avaient quand même des moyens politiques quand même forts. Ils n'ont jamais rien fait. Et aujourd'hui, il y a une redisposition de la région moyenne-orientale qui peut être intéressante, sauf que malheureusement, la question palestinienne n'est pas assez centrale.
Moi, je pense que toutes les activités qui sont faites en France sont très importantes. Que ce soit des jumelages, que ce soit les conférences, que ce soit les délégations qui vont là-bas, que ce soit les travaux des associations, tout le travail est important. Et le boycott aussi. Le boycott est aussi un des éléments très très importants pour sanctionner la force occupante. Parce que tant que Israël sent l'impunité totale, elle va continuer de massacrer le peuple palestinien. C'est quand elle va sentir qu'il y a des punitions, des sanctions qui vont être sur cette force occupante, peut-être qu'elle pensera un jour d'échanger sa politique. Merci. Bravo.
بالعربي اسمي مكتوب كله في هويتي عنوان ومدينتي حتى صوتي وملامح في صورتي تحكي وبتقول أنا عربي أنا عربي وبالعربي اسمي مكتوب في هويتي عنواني ومدينتي حتى صوتي وملامحي في صورتي تحكي وبتقول أنا عربي أنا عربي وبلدي فلسطين أنا عربي فلسطين عربي أحس إني إنسان من جسد وروح قلبي مجروح وخايف أضيع من النسيان.
أنا عربي وبلدي فلسطين، أنا عربي فلسطين عربية، أرض السلام مهد الأديان، أنا مش مجهول الهوية.
أنا عربي وبلدي فلسطين، أنا عربي فلسطين عربية، أرض السلام مهد الأديان.